nous sommes là dans la série des conférences de mathématiques et nous sommes à l'avant-dernière avec la conférence de Benoît Mandelbrot. Sur mon programme, je n'ai que les mathématiques fractales, mais le titre est plus exact et plus compliqué. Monsieur Mandelbrot vous le donnera, mais il s'agira bien des fractales. Alors, j'ai le plaisir, je le remercie beaucoup. Il s'est tenu un peu dans l'ombre et la fraîcheur jusqu'ici. J'ai vraiment un grand plaisir et nous sommes très honorés d'accueillir ici Benoît Mandelbrot. Comme nous en avons la coutume, je donne sa biographie rapide. Il est né en 1924 à Varsovie, en Pologne. Il est ancien élève de l'école polytechnique. C'est notre second polytechnicien de suite, puisqu'hier Jean-Pierre Bourguignon était aussi polytechnicien. Et docteur en sciences mathématiques, Master of Science. Son parcours. Il a commencé, je pense, au maître de conférence de mathématiques appliquées à l'Université de Lille. Il a commencé au CNRS, puis il a été maître de conférence de mathématiques appliquées à l'Université de Lille et d'analyse mathématique à l'École polytechnique. Ensuite, il a accumulé, disons, les responsabilités universitaires dans toutes les universités les plus grandes qui soient. Il a été chargé de cours ou chercheur ou professeur de mathématiques, de physique, d'ingénierie, de physiologie ou d'économie dans des lieux comme l'Institute for Advanced Study à Princeton, à l'Université de Genève, à Harvard, à Paris-Sud, au MIT, à Yale, à l'Institut des hautes études scientifiques. Il est actuellement professeur de sciences mathématiques, Sterling Professor à l'Université de Yale et fellow émérite au centre de recherche IBM de Watson. Alors, ces publications, parce que c'est souvent vous voulez vous y rapporter, sont très nombreuses, aussi bien en français qu'en anglais. Et bien sûr, il y a tous les articles proprement scientifiques. Mais je signale donc en termes d'ouvrages, Logique, langage et théorie de l'information, 1957. Les objets fractales, formes, hasard et dimensions, 1975. La géométrie fractale de la nature, Fractal Geometry of Nature, 1982. En français, donc, vous avez Les objets fractales, 75, un livre de sélection, un multivolume de sélection en anglais, comportant beaucoup d'œuvres mathématiques. Et puis, je citerai pour terminer Fractal, hasard et finance de 1997. Mais je crois qu'il vous montrera ces livres. Certains sont très accessibles en collection de poche, ce qui est extrêmement heureux. Alors, je lui donne la parole pour 50 minutes et ensuite pour quelques questions de l'assistance. Merci.
Merci de m'avoir invité ici. C'était une très bonne occasion de parler de certains de mes travaux. Je voudrais commencer par modifier un peu le titre pour le rendre un peu plus, ambitieux. Je parlais des fractales en partant de l'art et en aboutissant à l'art, mais pas de façon, directe, en court-circuit, mais par un chemin tout à fait compliqué en passant par les mathématiques, la finance et les sciences. Donc, ma carrière s'est passée à poursuivre une certaine idée qui paraissait à l'époque tout à fait exotique, à moi comme aux autres, et qui s'est révélée de plus en plus être présente partout. En un certain sens, ce que je fais toute ma vie, c'est une théorie du rugueux. Commençons donc par une petite parenthèse qui n'est pas scientifique, mais physiologique. L'homme a plusieurs sens, et chacun des sens de l'homme a donné lieu à une science. Inutile de dire que l'œil nous a fourni l'optique, du moins les éléments de l'optique, l'oreille, l'acoustique, le sens du lourd, la mécanique en bonne partie, le sens du chaud, la théorie de la chaleur, etc., etc. Un sens avait été mis à l'écart, avait été oublié en quelque sorte, oublié de façon tout à fait incroyable quand on y pense après coup. C'est le sens du rugueux. Aussi important que le sens du chaud, aussi important que le sens du lourd ou du léger. Eh bien, toute ma vie, j'ai poursuivi cette idée de rugueux sous ces diverses formes innombrables dont je voudrais vous présenter quelques-unes. Ce qui est arrivé est assez étonnant pour moi, presque miraculeux. J'ai commencé par établir, il y a fort longtemps, une association très très profonde entre deux idées qui étaient toutes les deux anciennes en quelque sorte, l'une très mathématique, en fait monstrueuse, pathologique, disait-on, vers 1900, et l'autre, au contraire, l'idée qu'il faut qu'on vive avec, dans un monde très compliqué, un monde qu'on n'ose plus appeler chaotique, parce que le mot chaos a pris un sens technique, mais un monde très, le monde des choses imprévisibles, des choses, le monde de l'amorphe, le monde dans lequel les choses sont si compliquées que l'idée de forme ne paraît pas s'appliquer à elles. Eh bien, à partir de ce chaînon, de ce qui était un lien, j'ai trouvé un lien, puis un autre, une chaîne s'est créée peu à peu, et de façon étonnante, récemment, dans l'année qui vient de se passer, cette chaîne s'est refermée sur elle-même. En un certain sens, quand je vous parle de l'art à l'art à travers tous ces domaines, ce n'est pas en partant de l'art que je travaillais, c'est en partant du milieu de la chaîne. La chaîne a poussé de côté, elle aboutit là. Quand je passerai de mon petit discours au diapo, vous allez voir que c'est au début que je commencerai, c'est-à-dire il y a très 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 longtemps. Pour moi, ce lien a quelque chose de merveilleux et presque magique. Car toute ma vie, j'ai lutté contre une habitude que certains trouvent admirable, qui est de clore les disciplines, d'établir des murs très hauts, très étanches, tout à fait infranchissables entre une discipline et l'autre. Dans le contexte où je travaillais, il n'y a pas de mur. Car en fait, la rugosité ne connaît pas de mur. La rugosité est passe-muraille. Elle se trouve partout. Par conséquent, les techniques qu'on trouve dans un domaine s'appliquent très souvent dans d'autres. Bien, maintenant, par où commencer, puisque nous sommes sous terre, puisque nous vivons sur terre, puisque nous venons de la terre, et nous allons tous y revenir, commençons donc par bien regarder la terre. Alors, je voudrais vous montrer cette image. Bon, eh bien, voici une photo d'un terrain, tout à fait sans intérêt. Pourquoi y a-t-il une main, un objet familier? C'est que les gens qui regardent la Terre savent très bien que si on ne donne pas un élément d'échelle, on ne sait pas à quelle échelle se trouvent les choses. Regardons cette autre image. Effectivement, voici ici un terrain qui est plus grand sans doute, et à une échelle inconnue, mais l'élément d'échelle nous donne sa taille. Êtes-vous sûr? Pas du tout. En fait, c'est triché. Donc, quand on ne prend pas garde, quand on met un élément d'échelle qui est faux, on s'y trompe. Dans le monde, pas tout dans le monde, mais beaucoup de choses dans le monde ont cette propriété incroyable que si on ne regarde pas de façon très claire, si on ne donne pas un élément de taille connue, on ne connaît pas l'échelle. Ces objets sont les mêmes à toutes les échelles. Passons à un objet qui est beaucoup plus agréable à manger, au moins, c'est un chou-fleur. Mon exemple favori, celui-ci en particulier, se compose de fleurs. Chacune de ces fleurs de chou-fleur, si on découpe tout le reste, paraît être un petit chou-fleur. On peut encore découper. On peut enlever ce chou-fleur, le transformer en une collection de plus en plus gigantesque de tout petits chou-fleurs, et en somme, le tout est la somme des parties. Le tout a la même forme que les parties. Propriété qui est bien sûr celle d'un segment de droite. Si on coupe un segment de droite en petits segments de droite, ils sont aussi identiques au tout. Mais dans ce cas particulier, ces objets sont extrêmement irréguliers. Donc on peut dire que cette propriété est très simple d'être autosimilaire, d'être semblable à soi-même, que chaque pièce, chaque morceau soit le même que tout, s'applique d'une part aux objets très simples de la géométrie élémentaire, carré, intervalle, etc., mais de plus à d'autres objets. Alors cet objet, pourquoi ai-je commencé par lui ? Car depuis très longtemps, depuis toujours semble-t-il, l'homme a utilisé ces objets pour la décoration, pour orner sa demeure et son temple. Alors je commence par quelques temples indiens qui sont deux. Je ne connais pas très bien les différences entre ces diverses architectures, mais de façon presque constante, ces temples ont cette propriété que chaque morceau est une image du tout. Pourquoi donc? Car dans la philosophie de l'Asie de l'Est, il y a une idée très, très ancrée qui est que le monde a cette propriété d'être en boîte de plus en plus petite. Dans une goutte de rosée, il y aura un autre monde tout entier avec d'autres gouttes de rosée de plus en plus petites. Leibniz, dans notre culture, s'est beaucoup penché aussi sur cette idée. Cette idée, telle que je viens de la noter, est fausse scientifiquement. Je ne suis pas en train de vous faire un cours de physique extrême orientale, ou leibnizienne, mais simplement dire que l'idée d'objets qui ont cette structure emboîtée, toujours la même, est une idée très profondément ancrée dans l'esprit humain. Et alors passons donc à cette image pieuse. Les images pieuses bouddhiques sont toutes comme ça, avec des parties qui sont comme le tout. Changeons de continent, nous sommes maintenant en Afrique. Il s'agit d'un village en Afrique qui est construit sur un schéma dont je vais vous montrer la forme de façon plus précise. C'est un schéma dans lequel le tout est reproduit dans chaque partie du village. La case du chef, le temple, les parties du temple, à chaque fois, le tout est reproduit. Passons à d'autres cultures encore. Ici, nous sommes le Book of Kells, une Bible irlandaise extrêmement classique, à l'époque où l'Irlande était le pays le plus développé de l'Europe. Et elle est pleine de dessins qui se reproduisent. Très inspiré par les bijoux celtiques qu'on trouve très, très souvent au fond de la Tamise, bijoux celtiques dans lesquels cette idée de reproduction était très profondément ancrée. Donc, je fais le tour du monde de façon constante. Ici, un dessin de Gustave Doré représentant un ange. Je ne sais pas si Doré était influencé par la philosophie zen. Il est évident que l'ange est fait d'autres petits anges, et ainsi de suite. L'ange n'a pas de taille. L'ange est un objet, en quelque sorte, auto-similaire. Continuons encore. Voici ici un dessin de Victor Hugo. Victor Hugo était en fait un grand peintre. On ne le compte pas comme tel. Georges Sand aussi. Mais leur peinture était, à mon avis, très intéressante, car elles étaient extrêmement intellectuelles. Il y avait l'abstraction dont on dit qu'elle est née en 1900, en fait, est présente de façon très, très forte dans ces gribouillages d'Hugo, qui sont fort remarquables. Ici, un peintre lituanien qui s'appelait Čiurlionis. C'est maintenant, j'arrive à l'époque de ce qu'on appelle la création de l'art abstrait. Eh bien, vous voyez, il voulait représenter un monde compliqué. Comment l'a-t-il fait? En faisant des volutes, des petits volutes sur les grands volutes, et encore, encore. Voici un Kupka, un autre peintre qui a peut-être, que ses amis ont peut-être raison de mettre en avant comme étant un des co-inventeurs de l'art abstrait. L'art abstrait qui n'est pas à être inventé, comme je viens de le dire, puisqu'il était pratiqué par beaucoup de gens au 19e. Mais l'idée essentielle, c'est que la présence d'objets de toutes les tailles est fondamentale. Ce n'est pas de l'art abstrait du style drapeau bleu, blanc, rouge ou d'autres œuvres de cette nature, mais ici, il y a une structure géométrique très profonde qui est celle que chaque partie représente plus ou moins l'irrégularité du tout. Alors, passons à la musique. La semaine dernière, je fais une conférence une personne présente m'a dit, je parlais de musique, il m'a dit, mais si vous rencontriez Mozart, que lui direz-vous, M. Mandelbrot? Alors, je dirais à Mozart des choses qu'il connaît fort bien. C'est que dans une sonate, il y a trois mouvements, rapide, lent, rapide. Dans chaque mouvement, une partie, encore une fois, différenciée par la hauteur du son, peut-être par une clarinette ou peut-être par un autre instrument. L'idée essentielle que Mozart connaissait très bien est que d'une part, il fallait que tout change, quelque chose change tout le temps, et deuxièmement, il fallait qu'il y ait un équilibre entre les grandes structures, les moyennes et les petites. Tout le monde l'a toujours su. C'est une chose complètement banale. C'est à la base de la structure musicale. La mauvaise musique, la bonne musique, toutes les deux ont cette structure présente. Contraste absolu, voici ici un tableau de Piero della Francesca qui représente l'entrée d'Euclide dans la peinture. Chose étrange d'ailleurs, Euclide n'a pas été d'abord, quand il a été découvert, d'abord n'a pas été l'ami des savants, l'ami des peintres. Et c'est les peintres qui peu à peu l'ont fait connaître aux savants à naître. Mais l'essentiel, c'est qu'à l'époque où Piero della Francesca pratiquait son art, Galilée a écrit ce manifeste extraordinaire, très célèbre, donc que le grand livre de la nature est écrit en caractère mathématique. Et ce caractère, il a fait la liste, les triangles, les cercles, je ne vais pas regarder cette image pour la relire, mais enfin, une liste très simple et très courte, et une liste dans laquelle il y avait uniquement des objets appartenant à la géométrie d'Euclide. Eh bien, ce livre de la nature, tel que Galilée l'avait prévu, était trop modeste dans son alphabet. Il n'y avait pas assez de caractères pour représenter toutes ces choses dont je vous parle. Tous ces objets dont je parlais auparavant seraient qualifiés par cette morphologie d'amorphes. Ils n'ont pas de forme. Or, ils ont une forme, forme que nous reconnaissons, forme dont certains caractères se retrouvent dans toutes les disciplines de la décoration, de l'art, de l'architecture, de la musique, etc. etc. Donc, passons, continuons. Vous reconnaissez ce tableau effroyable de Salvador Dali. Il était notre contemporain, puisqu'il est jamais connu, mais enfin, j'aurais pu le connaître. Ce n'était pas un mathématicien. Mais cette idée qu'il avait, donc, ce tableau de chaque ouverture de la tête contient encore une tête de mort, ainsi de suite. Eh bien, cette idée, maintenant, nous arrivons à un objet qui, lui, est complètement abstrait et qui date de 1915 environ. Et là, nous arrivons à un phénomène, à une des grandes, un des grands tournants de la pensée mathématique qui a influencé notre siècle de façon extraordinaire. Il y a environ 100 ans, plusieurs mathématiciens, des gens extrêmement éminents, se sont mis d'accord pour vouloir rompre le lien extrêmement étroit qui existait entre la physique et les mathématiques. Ils considéraient que les mathématiques, telles que l'on les pratiquait, étaient esclaves de la physique, étaient liées à la physique, étaient soumises au plaisir de la physique. Ces liens, ils ont voulu le rompre. L'un d'entre eux, peut-être le plus grand, certainement le premier, Cantor, était un homme qui n'hésitait pas à faire de grandes phrases, et il écrivait à son ami Dedekind, à qui il écrivait une lettre tous les jours, et en tout le temps en disant « Nous, mathématiciens, nous sommes de race divine. Nous pouvons inventer des objets que l'homme, nature, n'ont jamais connus. » Bien, ces objets, dont je vous montrais quelques exemples tout à l'heure, celui-ci en est un. Mais maintenant que je vous ai préparé avec ce prélude, cette introduction qui n'était pas sur la nature, mais sur l'art, je n'ai pas encore parlé d'objets naturels, je parlais juste d'œuvres d'art. Nous sentons tous que ces objets, la structure de ce triangle que j'ai appelé Tamis de Chapinsky, pour des raisons d'ailleurs tout à fait étrangères à Chapinsky, mais ce triangle, sa structure répercute beaucoup de structures connues dans la décoration. De façon plus précise, regardez le pavement de la chapelle Sistine, il y a non pas toute la richesse de cette structure, mais le début de construction. Beaucoup d'églises italiennes, vous en trouvez encore. Donc, cette structure n'était pas une invention de mathématiciens de race divine, c'était une distillation de ce qui venait bien avant. Alors ici, vous voyez en bas un chapiteau, je ne sais plus quelle dynastie, mais très, très, très lointain. J'aurais pu le mettre avant, mais je l'ai gardé pour la bonne bouche, car en fait, au-dessus, il y a cet ensemble dû à Cantor qui était un des objets, un des outils, une des armes que les mathématiciens se sont forgés il y a environ 100 ans, armes dont le but était de mener et de gagner une guerre d'indépendance par rapport au monde ambiant. Bien, il est évident que la structure de ce chapiteau avec ces motifs lotus qui sont très répandus dans la décoration de beaucoup de pays, représentait en bonne partie la construction, l'idée de la construction de ces ensembles. Alors, je voudrais faire le point sur cette époque. En 1900, donc, les mathématiciens ont créé ces mathématiques et ils ont, je crois, sincèrement cru qu'il y avait là-dedans une invention authentique et qu'il y avait un décalage complet avec tout ce que le monde avait connu, avec les sens de l'homme, avec la nature et tout le reste. Et j'ai eu le bonheur, il y a déjà 50 ans, de ne pas croire à cette idée et un bonheur un peu plus précis, un peu plus tard, de montrer que ces outils que les mathématiciens avaient donc forgés avaient été, en fait, tout le contraire de ce qu'ils pensaient en faire. Plutôt que de séparer les mathématiques du monde, ils ont permis de soumettre à la même méthode de la physique mathématique toutes sortes d'aspects du monde déclarés informes, y compris d'ailleurs, comme je vous l'ai remarqué, beaucoup d'aspects de la création de l'homme. La création de l'homme, donc j'ai donné la couverture d'un livre, le Fractal Geometry of Nature, aussi un autre livre dans lequel la moitié est faite de vieux articles, la moitié de travaux nouveaux, et dans lequel j'insiste beaucoup, par exemple, cet objet que voici, qui était à la base d'une construction due à Poincaré et à Klein, datant de 1880, telle qu'on la met dans le livre de mathématiques, elle paraît sèche et est dépourvu de vie. Et ici, tel qu'on la présente, avec un léger décoration bien honnête, elle paraît au contraire extrêmement proche de la réalité. Donc, on peut dire qu'il y a deux géométries, et sont inégales à tous égards. La géométrie fractale est petite, elle est récente, elle est pratiquée par un groupe de gens extrêmement hétéroclites. L'euclidienne est ancienne, consacrée. Mais enfin, chacune est de l'autre, je crois, de façon extraordinaire. Ici, pour dire en deux mots, les choses deviennent compliquées. Au début, la géométrie fractale paraissait très simple. Beaucoup de gens pensaient que ça réduisait à quelques formules. Deux, trois formules, deux, trois idées. En fait, maintenant, c'est foisonnant. Il est évident que jamais je ne pourrais commencer à en parler. Je voulais seulement le signaler. Et là également, dire un mot d'une mesure qui est une mesure de rugosité venue par un chemin extrêmement inattendu. Donc, je vous ai dit que la rugosité était une propriété commune à tous les phénomènes, quasiment, souvent importante, souvent peu importante, ça dépend des cas. Mais de toute façon, on ne peut pas y échapper. Eh bien, la rugosité, on essayait de la mesurer par des méthodes, comment dire, peu intellectuelles. Il y a cette hiérarchie des sciences, à laquelle personnellement je n'ai jamais souscrit, et qui fait qu'il y a des sciences nobles, des sciences qui sont moins, et puis des sciences qui sont plus ou moins intouchables. Je dirais presque tout à fait intouchables. Et que les intouchables, eh bien, ils se touchent entre eux. Donc, la rugosité était une science intouchable. Personne n'en parlait dans le milieu bien élevé. Et pour la mesurer, on pensait utiliser des outils qu'on trouve, dans les cabanes des intouchables. Or, la mesure de la rugosité a dû chercher un concept extrêmement abstrait, dû à un des plus grands hommes, encore une fois, au début du siècle, Hausdorff, une notion et dimension qui fait le pont entre, mettons, la dimension 1 d'un intervalle, la dimension 2 d'un carré. Alors ici, je n'ai pas le temps de m'attarder, mais enfin, il y a une formule, cette formule extrêmement élémentaire qui paraît si simple qu'on n'en tirerait rien. Je m'excuse d'aller si vite, mais si on applique à ces objets ces constructions de courbes, on voit que la courbe à gauche a une dimension de 1,5 environ, 1,5 et 2. Une courbe de dimension 2, c'est en fait un mouvement de piano, remplit le plan. Une courbe de dimension 1,5 la remplit beaucoup moins. Celle de dimension 1,5 la remplit encore moins. Et en fait, les mesures pratiques de rugosité se basent de façon très, très complète sur ces courbes. Alors, j'aurais voulu vous parler des outils innombrables qui maintenant ont été développés pour la rugosité et ses divers aspects. Ce serait très, très long. Je voudrais peut-être en dire juste deux mots, montrer cette image ici. Les outils qu'on utilise dans le cas de surface rugueuse, la longueur, la surface, les tangentes, les densités sont des objets qui disparaissent. Des soutiens familiers de notre intuition, qui en fait des soutiens qu'on nous a appris quand nous étions adolescents, plus ou moins bien appris, disparaissent. Ils sont remplacés par d'autres objets. Donc, dimension fractale venue de Hausdorff, maintenant devenue plurielle et tout à fait enrichie de mille variantes. Coefficient de Hölder, venue de Hölder, encore une fois de maths extrêmement ésotériques, devenue absolument courante. Les multifractales, qui est une notion que j'ai introduite vers 70, la quinarité, etc., etc. Donc, l'essentiel dans cette affaire, c'est que les outils sont différents. Il faut que l'œil aide à ces outils. L'œil est indispensable. Mais l'œil, j'insiste, l'œil assisté. Assisté par qui? Bien sûr, par l'ordinateur. Alors, maintenant, quelle a été une des tâches élémentaires, si on peut dire, de la géométrie fractale? Une des tâches a été de faire des outils. L'autre tâche a été de faire un répertoire du rugueux, du fractal dans le monde, aussi bien en physique, chimie, biologie, qu'en finance, économie, linguistique. J'insiste sur le fait que les fractales ne sont pas une panacée. Tout n'est pas fractal. Tout au moins, dans beaucoup de domaines, le fractal est un détail sans importance. D'autres domaines, c'est l'essentiel. Alors, ceci, c'est tout des choses très générales. Je pourrais vous faire une longue liste. Ça a l'air comme un poème de la liste des métiers de Prévert. C'est insupportable et ça paraît artificiel. Or, en fait, ce ne l'est pas. Bon, quel est le travail fondamental en mathématiques et en physique? En mathématiques, on fait des conjectures, on les démontre, on ne les démontre pas. Je vous montrais des exemples de conjectures mathématiques dues à l'œil assisté, fractales, qui ont été extrêmement difficiles, dont certaines sont démontrées et d'autres ne sont pas. Phénomène naturel, il faut bien en faire la théorie. Donc revenons maintenant à cette diapo. Voici une diapo de Montbronien, copiée d'un livre de Jean Perrin très célèbre en 1912, je crois, ou 1913. Montbronien se moque d'une petite particule très petite, légère, une petite gomme, un petit bout de gomme poussé par les molécules dans tous les sens. Et on voit qu'il pense être irrégulier. Montbronien a été le seul exemple d'objet irrégulier que la physique, les mathématiques ont su tout de suite dompter. On le comprend très bien pourquoi il est là. On sait depuis très longtemps mesurer tout. On sait mesurer les constantes fondamentales du Montbronien, le nombre de molécules dans un gramme d'eau, par exemple. Tout ça, on peut le faire. On en connaît les mathématiques très bien. Montbronien est un objet merveilleux. Un objet qui avait toutefois commencé à prendre un peu de vieux il y a quelque temps, en ce sens que tellement de gens s'y étaient attachés qu'on commençait à ne plus trouver de questions intéressantes à se poser. Eh bien, dans mon livre, The Fractal Geometry of Nature, j'ai donné cette image qui donne Montbronien. Vous voyez ici une courbe en noir et qui se promène de façon très compliquée. Et puis vous voyez aussi en gris les points qui ne sont pas accessibles à l'extérieur. Donc la courbe interdit l'arrivée dans ces îlots de quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc quelqu'un vient de l'extérieur se heurte à la frontière de cette courbe. Bien, cette courbe, en la regardant de façon intense, je me suis mis à rêver. Je me suis dit, mais ça ressemble à une sorte d'île, mais une île beaucoup plus extrême que les îles que je connaissais. Eh bien, certaines îles ont des dimensions, je vais y revenir en montrant des exemples, de 1,3, ce qui veut dire assez rugueuse. 4 tiers, c'était très rugueux pour une île, c'est la limite presque. D'ailleurs, question intéressante pour les géomorphologues. Eh bien, on a fait des mesures, on a trouvé que 4 tiers était bien, du point de vue numérique, une approximation excellente de la dimension de cette frontière. Pendant 20 ans, ceci est resté un mystère absolu. Des centaines d'articles ont été publiés, n'arrivant absolument à rien. Au début de l'année, miracle des miracles, 3 mathématiciens, Lawler, Werner et Schramm, l'ont démontré. C'est bien 4 tiers. Eh bien, je voudrais montrer ça, à quel point ici, une union complète de l'œil, du respect de l'image, et de l'intervention de la mesure. Quand on tient 15 décimales de 4 tiers, c'est difficile de douter que ce soit vrai. Eh bien, et ensuite, la démonstration complète a permis de faire ça. Bon, eh bien, continuons. Le Montbronien, se trouve-t-il, est venu donc par la physique, ou plutôt, pensait-on, par la biologie, mais enfin, par les sciences dures. Eh bien, en fait, il avait été inventé séparément ou découvert séparément par Bachelier comme modèle de variation des prix. En 1900, il avait fait une thèse que, sauf Poincaré, personne n'avait lue. Poincaré a été obligé, puisque c'est lui qui a écrit le rapport. Alors, personne n'avait lu cette thèse pendant très longtemps. Elle est devenue célèbre en 1960. Et en 60, elle a été reprise comme modèle variation des prix. Alors, je voudrais aussi vous montrer ce dessin qui montre 4 zigzags, dont 2 sont des chroniques de prix réels. Une est Montbronien et une est une image, mon modèle relation des prix, qui n'a rien de Brownien. Eh bien, vous voyez ici, si on exerce sur cette image ce que je disais, si l'œil essaie de deviner, c'est impossible de deviner. En fait, c'est impossible. Je suis sûr que quelqu'un l'aura deviné un jour ou l'autre, mais la plupart des gens extrêmement experts s'y trompent. L'œil est très mal placé pour distinguer entre les objets statiques qui ne bougent pas. L'œil distingue très bien ce qui change. Chacun le sait. Or, ces images-là, elles ne bougent pas. Elles sont statiques. Alors, regardons, changeons de processus. Regardons les changements de prix. En haut, le changement de prix, d'après la théorie donc, de Bachelier. Théorie merveilleuse, aussi bien par simplicité que par sa beauté mathématique, jusqu'au jour où on regarde ce qu'elle produit. elle produit ce bruit qu'on appelle bruit blanc gaussien, dans lequel rien d'intéressant ne se passe. Il n'y a jamais de discontinuité des prix, il n'y a jamais de panique, il ne se passe jamais rien. La volatilité est constante. La deuxième ligne représente une variante membronienne, variante très éloignée, il faut le dire, que j'ai introduite en 63. Eh bien là, les grands changements de prix sont nettement montrés. Ensuite, la troisième, je passe. Les cinq dernières, c'est un mélange de vraies chroniques et de chroniques fabriquées, d'après ma dernière théorie. Eh bien, ici, le test, non pas le test, mais l'instrument rhétorique, la rhétorique a dû passer par le dessin. Sans le dessin, on peut s'époumoner à vitam aeternam sur les défauts de Mambronien, et c'est des choses qui sont absolument théoriques. Mais quand on voit ce que ce modèle prétend en haut, et qu'on voit la réalité qui est cachée dans certaines de ces courbes en bas, on se dit tout de suite que ce n'est pas la même chose. Eh bien, nous voilà ici maintenant, au début de ce parcours qui m'a fait aller de ces monstres vers ensuite la physique, nous allons y arriver, ensuite beaucoup d'autres sciences. L'essentiel, c'est de regarder. Et en 63, quand je fais la théorie numéro 1, deuxième ligne, je n'ai pas le moyen de regarder. C'est avant l'ordinateur, je fais des choses à la main, plus ou moins, c'est impossible. Maintenant que je peux le faire, enfin l'image en arrière, ça n'a aucune importance. En haut, il y a le Mambronien, en bas, un marché complètement effarant. La vérité du marché se trouve entre les deux. Entre les deux, le changement est continu. On a des paramètres qui sont les bons paramètres pour mesurer la volatilité, la régularité ou l'irrégularité des marchés. Alors, je ne dis pas plus sur la finance, mais l'essentiel, c'est que les techniques utilisées en finance et les techniques utilisées en turbulence sont identiques. Pourquoi ? Non pas que je trouve des analogies profondes, internes à ce domaine, il n'y en a pas à ma connaissance, mais parce que, de même que la température est la même pour les objets, quels qu'ils soient, la rugosité est un concept qui doit être étudié de la même façon dans quel contexte qui se trouve. Là, on passe au sublime, c'est-à-dire la distribution des galaxies, en partant de ce que beaucoup de gens considèrent comme peu sublime, à savoir les marchés financiers. Et il se trouve que la distribution des galaxies obéit aux lois fractales. Voici un diagramme, c'est un des rares que je vous montrerai, et qui montre la densité observée dans l'univers jusqu'à environ 1000 mégaparsecs. 1 mégaparsec, c'est gigantesque. Mais 1000 mégaparsecs, ça commence à être une distance respectable de l'univers. Bon, beaucoup de ceci est dû à mon ami Pietro Nero et à ses élèves. Beaucoup d'astronomes nous mènent encore la guerre. Ils acceptent que c'est vrai jusqu'à 200. Là, vous voyez, mais pas 1000. Mais il y a un progrès. Il y a seulement 10 ans, ils disaient que c'est 5. Fractal jusqu'à 5 mégaparsecs et après uniforme. Si c'était uniforme, cette courbe de densité aurait dû devenir horizontale. Elle ne fait rien de tel. Donc, dans un contexte aussi gigantesque, ce n'est pas ici la rugosité, c'est l'irrégularité qui se trouve être discutée par le même principe. Encore une fois, je me réfère à l'histoire, au peintre. Ici, il s'agit d'un tableau célèbre de Hokusai qui représente les vagues. Si on demandait aux physiciens d'il y a 200 ans ce qu'ils pensaient de la turbulence, ils n'ont rien pu dire. Le mot turbulence n'existait pas, les physiciens commençaient à comprendre les écoulements laminaires. Mais les peintres, eux, connaissaient la turbulence. Hokusai, c'était il y a 200 ans. Et Léonard de Vinci, de même, faisait des images merveilleuses. Alors ici, image moderne de la turbulence. Ici, une forme de turbulence plus compliquée, qui est à savoir les nuages. Ceci est un faux. Et j'en suis fier. Ce n'est pas une photo, ce n'est pas peint par quelqu'un qui connaît les nuages, ce n'est rien. C'est inventé. Et on part d'un minimum d'hypothèses, minimum, et on voit ce qu'hypothèse donne. Et cette hypothèse, en gros, exprime cette invariance d'échelle. L'idée que le petit nuage en bas à droite, en bas à gauche, a la même forme que le grand vers le haut, mais bien sûr, la même forme, un sens statistique. Ceci est extrait d'un article avec Sean Lovejoy, il y a une vingtaine d'années. Donc, dans le contexte de la turbulence, ce qu'ont apporté les fractales, c'est une chose très précieuse et qui étonne quelquefois les non-scientifiques, mais qui est fondamentale. J'ai cité donc Galilée longuement. Galilée parlait du grand livre de la nature et du langage, alphabet de la nature. Eh bien, le langage est une chose fondamentale. Il y a des objets qu'on ne peut pas étudier, dont on ne peut rien dire, parce qu'on n'a pas de langage pour les exprimer. Et donner un langage est déjà un progrès, même si on ne fait rien d'autre. Ici, bien sûr, le langage n'est qu'une partie de cette affaire. Donc, d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti récemment en Amérique, pas en France, j'en sais rien, de mes collègues de Yale sur Shakespeare. Et l'éloge que cet homme fait de Shakespeare, c'est que Shakespeare a su décrire ses émotions d'une cruauté et d'une, très primaire, d'une façon qui, avant ça, n'avait été inventée par personne, qu'il a inventé un langage pour certains sentiments. Bref, le rôle du langage est essentiel. Ici, il s'agit d'objets très différents. Il y a dans le monde toutes sortes de ces dendrites. On en trouve beaucoup en paléontologie. Maintenant, on peut les dompter assez bien par un processus très simple. Et j'insiste sur la simplicité. Dans tous ces cas-là, c'est faux que nous faisons pour donner l'essentiel des objets très rugueux, très compliqués de la nature. Ces faux sont surtout intéressants parce qu'ils sont si simples. On ne parle pas d'une longue liste de faits établis. On ne parle pas d'une longue liste de préjugés que sais-je. On parle de toute petite liste et on montre que tout le reste s'ensuit. Si on parle de la fractalité des galaxies, beaucoup d'autres propriétés des galaxies, qui sont également vraies, connues, sont des conséquences de la fractalité. Elles n'ont pas à être démontrées séparément, tout va ensemble. Si on avait une longue liste d'hypothèses pour commencer, jamais on s'en tirerait. Ici, on peut le faire. C'est la raison pour laquelle on avance si bien. Victor Hugo, un amas de percolation, et je viens en arrière, cet objet que vous montrez de mon brownien, c'est l'amas brownien. Il y a toute une catégorie d'amas, ou bien de peintres, ou bien de physique, ou bien de mathématiques pures, comme le brownien, qui ont des causes très, très différentes. Mais tous ont une dimension de 4 tiers. Le 4 tiers se révèle être une sorte d'universel de la science. Les 4 tiers qu'on obtient comme dimension de brownien a maintenant été retrouvés partout. Et on a maintenant une meilleure compréhension de ce que représente la structure du plan qu'on l'avait avant. Et on aperçoit une nouvelle façon de décrire ces structures qui avant étaient insoupçonnées. Donc j'insiste sur le fait que ces 4 tiers de sources multiples, la principale du point de vue mathématique, a été cette hypothèse, cette idée de regarder ces amas browniens. Ici, un processus de diffraction, mes amis à l'École polytechnique, Bernard Sapoval, a fait ce dessin qui montre comment des objets diffusent dans d'autres. C'est un peu compliqué, je voulais simplement le montrer pour faire le lien, pour ceux qui savent ou ceux qui s'inquiètent, entre les équations de Weber partielles, qui sont en somme la Bible de la science, et les fractales. Et à un certain moment, on me disait, comment se fait-il que les fractales existent dans un monde dont nous savons tous, depuis Laplace, Fourier, Poisson et les autres, que ces objets, ces phénomènes sont régis par des équations de Weber partielles. Eh bien, ces équations-là ont la propriété d'avoir des solutions uniques d'ailleurs, et on peut le démontrer pour un certain temps. À partir de maintenant, jusqu'à pendant un temps T étoile, il y a une solution. Après T étoile, mathématiques ne disent rien. Eh bien, le dogme, renouvelé de la fondation de la science, serait que les solutions de ces équations, après un certain temps, deviennent fractales. Fractalité n'est pas d'un monde séparé, d'un monde extérieur, d'un monde différent, les mêmes parties, même monde que les écoulements les plus simples, que l'équation de chaleur. Simplement, après un certain temps, les choses deviennent très irrégulières. Et ceci s'appliquerait également à la distribution des galaxies. beaucoup trop long pour expliquer. Oh, pardon, je m'excuse, c'est ce que je voulais dire. Voici un exemple de paysage artificiel qu'on regarde de plus en plus près pour montrer ce que l'autosimilarité. Ici, quelques images de paysages, d'abord dues à mon ami Voss, qui sont des classiques du faux, ni photo, ni, et que tout le monde prend pour du vrai. Et là, c'est cette grande... Est-ce qu'on peut mettre plus au point ou c'est à sa moi de mettre au point? C'est pas au point. Bon. Ensuite, deux images de mon élève Musgrave, celle-ci. Et celle-ci. Et maintenant, on peut faire du romantisme. Quand Voss faisait les autres images qui sont sorties de mon livre Fractal Geometry of Nature, il y a 20 ans, nous étions soumis à une stricte discipline qui avait deux raisons. D'une part, l'infographie était primitive, était tellement pénible qu'on ne faisait pas plus que le minimum. Et deuxièmement, on voulait démontrer que sans l'intervention de la personnalité de Voss ou la mienne, on ne pouvait avoir des images si belles. Ensuite, nous arrivons maintenant à un autre chapitre de cette conférence, qui va être assez rapide étant donné que je traînais sur le reste, qui est celui, encore une fois, du rapport entre la mathématique et le réel, la mathématique et le visible. J'ai eu la chance et la malchance, toujours combinée, d'avoir un oncle mathématicien très éminent et qui faisait des mathématiques, qui adorait certaines mathématiques faites il y avait 50 ans à l'époque, maintenant il y a 100 ans. Et ce qui me plaisait surtout, c'est la sécheresse, la beauté austère de ces mathématiques. J'ai fait des images de ces mathématiques. Mon oncle restait de marbre. Les images, pour lui, étaient autre chose. Je disais, écoute, il y a ici une feuille infiniment fine. Tes maths sont ici, mes images sont ici. Toi, tu vois la feuille comme étant opaque. Moi, je la vois comme étant transparente. C'est la même chose. Dit-il, bon, c'est ton droit. Alors, ceci est un objet que Julia, qui était un maître, avait étudié. Je vous montre les exemples d'ensemble de Julia très vite pour leur beauté. Car en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'en prenant cette formule qui est d'une simplicité incroyable, vous allez voir ça, c'est Z2 plus C, rien n'est plus simple, quasiment rien n'est plus simple, on obtient ces objets qui paraissent les plus parfaits romantiques. Et ça, on dirait des bijoutiers qui l'auraient inventé. Et les gens ne croient pas que c'est juste des maths. Ceci, gravure, avec une tête de taureau qui ne vient pas du tout de la race taurine, mais d'un problème. Ici, l'ensemble de Mandelbrot, dont je vous montrerai quelques images en insistant sur quelques points particuliers. J'ai commencé par le décrire. Voici l'équation, c'est écrit en X, mais en fait, dans le plan CZ, et dans les images que vous avez vues auparavant, c'est dans les quaternions, c'était dans quaternions plutôt que des nombres réels. Et alors ici, cette transformation la plus simple qu'on puisse imaginer, et que je n'ai pas inventée, qui était à la mode il y a 150 ans, il y a 100 ans, enfin, la fin du XIXe siècle, beaucoup de gens ont écrit là-dessus, sans rien trouver d'ailleurs. Et la raison pour laquelle je suis venu sur le tard, je trouvais, c'est que précisément, j'ai regardé 1000 images, et en regardant ces 1000 images, j'ai trouvé des choses fort intéressantes. Ah, ça, c'est mes premières images. Elles étaient des primitifs effroyables. C'était l'héroïsme parfait. Hubbard a dit que l'ensemble Mandelbrot est l'objet mathématique le plus complexe qui soit. Jamais compris ce que ça veut dire, mais c'est extrêmement... Ça sonne très bien. Pour compléter le duo, le meilleur exposé de l'ensemble Mandelbrot se trouve en appendice dans un livre de Arthur C. Clarke, The Ghost from the Grand Bank. Arthur C. Clarke est mieux connu dans le monde anglophone qu'en France, mais c'est un très grand écrivain. Il a très bien expliqué de quoi il s'agit. Alors, on a le constat, on regarde des coins de l'ensemble en question, ils sont tous différents, ils sont tous beaux, ils sont tous... Eh bien, certains vous donnent des idées qui ont mis 10 minutes à être démontrées, d'autres 1 an, d'autres 5 ans, d'autres 10 ans. L'idée essentielle est toujours verte. C'est-à-dire qu'en regardant ces images, pourquoi est-ce que je regardais ces ensembles de Mandelbrot? En fin de compte, les gens se disent, c'est pas dans mon style de le regarder. Je voulais regarder un ensemble un peu différent. Bon, disons, appelons-le M0. Mais M0 était très compliqué à étudier. C'est intéressant du point de vue physique, mais très compliqué à étudier. Alors je me suis dit, je vais essayer d'explorer autour de M0. Et j'ai pris cette définition de l'ensemble donc, de Mandelbrot. et qui est très facile à explorer, même à l'époque héroïque où il n'y avait pas d'ordinateur qui marche, que sais-je. Et en voyant ces images, je me suis dit, mais au fait, M, M0, c'est la même chose, sauf certains points spéciaux. En fait, l'hypothèse était que M est la fermeture d'M0, donc c'est M0 plus les points limites d'M0. Cette idée a été traduite en 10 façons et toujours pas démontrée. 2 médailles Field de données à des gens qui ont fait des progrès dans cette direction. C'est une des questions les plus difficiles des mathématiques. C'est elle qui a motivé la remarque de Hubbard. D'où est-elle venue? Non pas d'une continuation naturelle de la théorie de Julia, pas du tout. Elle est venue d'une direction absolument différente, de la physique et de l'examen respectueux de l'image. Alors, encore une hypothèse. Je vous montre ici très vite. C'est tout l'ensemble de prod. Vous en connaissez, ce sont des milliers. Et là, c'est tout petit. C'est le plus petit qui soit. Enfin, c'est pas plus maintenant. C'est le plus petit quand c'était à l'époque. C'était un record. Maintenant, c'est normal. Et on regarde de plus en plus près. On change de couleur. Ça change de caractère. Là, c'est le plus grand qui a été construit. C'était dans un champ à côté de Cambridge, en Angleterre. Et là, c'est une autre transformée, non pas Z2 plus C, mais regardez donc cette forme en bas à droite, un peu couleur légère. Là, c'est un plus grand. Regardez encore ça, encore plus grand. On a des formes qui proviennent d'une équation très simple, mais dont la complexité, dont la richesse font que du point de vue non pas du créateur, mais de celui qui reçoit l'art, ceci est perçu par beaucoup de gens comme étant artistique ou tout au moins comme étant très décoratif. Alors, nous approchons de la fin de la boucle dont je vous parle. Encore une transformée qui paraît d'une richesse extraordinaire, très, 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 très simple. Mais de plus, regardons un petit peu avant, c'est important, dans cette image. Ce qui est dans l'image comme en vedette et ce qui est autour est de structure très différente. La même équation représente toutes ces choses grises que vous voyez partout et les choses claires que vous voyez au milieu. La même équation. C'est une source de grand espoir pour tous ceux qui cherchent à comprendre le monde très compliqué. Alors continuons. Ceci était une erreur de calcul. Souvent, les erreurs de calcul donnent des résultats imprévus. Je ne sais plus quelle erreur. Et ceci, une autre. C'est extraordinaire. Quand on connaît la formule, on hésite à reconnaître que ceci a une vie indépendante. Quand on oublie la formule, parce qu'elle était oubliée, très vite corrigée, on perd complètement cette connaissance d'origine. Par conséquent, on revient aux choses principales. On revient à quoi? À cette chose fondamentale que Goethe a très bien exprimée dans Faust, première partie, quand Faust s'éloigne et que le diable met ses robes, un étudiant passe et il demande donc au docteur, enfin c'est le diable, mais il pense que c'est le docteur, quel cours faut-il qu'il suive à l'université. Et le diable lui fait une liste en insistant sur le côté de la sécheresse des sciences abstraites, qui à l'époque était bien sûr surtout la théologie, et sur le côté très concret et souvent charmeur d'autres sciences, comme par exemple la médecine. Et quand le jeune homme s'extasie devant le plaisir que la médecine pourrait donner de toucher sans problème des jeunes filles toutes belles, tandis que la théologie lui donnait d'autres ambitions, le diable lui dit « Gris, cher ami, toute théorie est vert, l'arbre d'or de la vie ». J'aurais hésité à parler de vert et d'or d'un même vert, mais Goethe l'a fait donc. En fait, ceci représente une forme ancienne, je dirais brève, mais très convaincante de ce que beaucoup plus tard, Cipisno a appelé les deux cultures. Il est évident que les deux cultures, ou les trois cultures, ou les 25 000 cultures, ou les 25 000 incultures, sont un problème dans beaucoup de contextes. Et dans beaucoup de cas, bien sûr, on n'y peut rien. Je ne parle pas du côté social des disciplines, mais je voudrais revenir à cet aspect étonnant qu'on puisse, avec une seule idée qui est à la fois élémentaire et qui est aussi non pas de caste brahmane, ni des castes des marchands, ni des castes des ferronniers, mais des sans-caste, des intouchables, des objets dont aucun scientifique sérieux n'aurait imaginé s'occuper il y a peu de temps. Comment, en combinant ces objets avec les idées les plus raffinées, les plus abstraites, les plus décharnées des mathématiques, et comment on peut mieux comprendre la complexité étonnante, foisonnante et infinie du monde qui nous entoure. Merci.
Expliquer, que vous nous expliquiez quel rapport on peut utiliser en sociologie entre la sociologie et les mathématiques fractales. Parce que si avec vos mathématiques fractales on peut prévoir tous les mouvements sociaux, bonjour la politique.
Enfin, je me parlais de prévoir. Quand je m'occupe de finances, j'insiste dès la première minute pour dire je ne sais pas prévoir. Alors si les gens me font des yeux méchants, je ne le dis vous non plus. Et donc, en fait, si on veut se restreindre à ce qui permet de tout prévoir, on serait souvent bien en peine. En physique, bien sûr, on n'a pas cet espoir. Donc, dans beaucoup des sciences sociales, je pense que si on pouvait mettre un peu d'ordre, avoir un langage plus approprié au caractère irrégulier, variable de ces sciences, on y gagnerait beaucoup. Et l'ennui avec la sociologie est le suivant, et la raison pour laquelle personnellement je n'ai rien fait dans ce domaine. C'est qu'il s'agit, bien qu'on la connaisse bien maintenant dans beaucoup de domaines, d'une science très récente, dans laquelle les outils ne sont pas tous bien au point, dans laquelle les gens ne sont pas à l'aise avec certains outils. Et je trouve qu'il est prudent, c'est presque une question peut-être de conservatisme sénile, mais en fait j'ai toujours été comme ça toute ma vie, donc j'étais sénile toute ma vie dans ce sens. Je veux établir cette théorie dans le cas où les données sont très très nombreuses et sont incontestables. Quand je parlais des finances, les gens me disaient pourquoi la finance ? Le marché financier, ça t'intéresse ? Pourquoi pas le chômage ? Pourquoi pas ceci ? Je dis parce que le chômage, il n'y a pas de données. Il y a des nombres, bien sûr, qui changent tout le temps de définition. Et ils ne sont pas les mêmes dans un pays que dans un autre, donc on peut difficilement comparer. En finance, au moins, on sait de quoi on parle. Alors, si on commence à comprendre la finance, qui est un aspect très particulier des systèmes économiques, on aura peut-être, en extrapolant, une idée du reste. Alors, les gens me disent, mais ça, justement, vous critiquez le brownien, mais le brownien, c'est ça l'idée. C'est une approximation générale. Je dis, écoutez, là, c'est vrai, vous avez raison, mais le brownien, par rapport à l'économie, c'est comme un ballet classique par rapport à la guerre. Et on raffine certaines structures qui sont très belles en elles-mêmes, mais elles n'ont rien à faire avec le problème essentiel qui est ailleurs. Donc en sociologie, si on me demandait de dessiner un domaine de la sociologie où on pourrait peut-être mieux comprendre ces choses, je demanderais quel est le domaine où les données sont les plus nombreuses. Cependant, ayant dit toutes ces choses négatives, laissez-moi être positif. Il y a un aspect de la vision qu'on se fait du monde qui est beaucoup trop régulier, beaucoup trop peu volatile, en quelque sorte. Et à chaque fois qu'il y a trois années sèches de suite, il y a des grands marchés de journaux sécheresse, est-ce que le monde va devenir le Sahara ? Quand il y a trois années de pluie, on se dit, est-ce que le monde va devenir, que sais-je, la jungle ? Et les variations du monde qui nous entoure sont beaucoup plus grandes que le dogme, l'idée statistique qu'on se faisait il y a peu de temps ne le suggère. Et ce dogme se base sur diverses lois qui sont fondamentales, mais qui ont chacune une limitation, qui sont que les moyennes convergent très vite vers des espérances, et que les deuxièmes moments convergent vers des variances. Bref, il y a un terme technique pour ça. Mais tout ça signifie à dire que si on regarde un système en grand, il sera assez régulier. C'est une traduction en termes généraux de ce qui est vrai dans un chapitre très limité de la thermodynamique, où effectivement, quand on regarde un système de plus en plus grand, on peut oublier la statistique et se revenir à la vieille théorie phénoménologique qui existait avant. Eh bien, dans le monde, dans les aléas qui nous entourent, les choses sont différentes. Elles sont beaucoup plus compliquées, et ce n'est pas un peu plus compliqué, elles sont de qualités différentes. J'ai parlé de ça depuis des années et des années, j'appelais ça le deuxième stade de l'indéterminisme. J'ai depuis changé de vocabulaire parce que ce terme marche mal et j'appelle ça le hasard sauvage pour être agressif. Eh bien, le hasard qui nous entoure est sauvage. C'est-à-dire que même si on ne prévoit rien, même si les sociologues peuvent dire aux politiciens quel genre d'extrême peuvent intervenir, ce serait un service tout à fait important à rendre.
Monsieur, oui.
Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de la structure fractale de la répartition des galaxies dans l'univers, et j'aurais aimé savoir si vous connaissiez les travaux de M. Laurent Nottal à ce sujet, qui, à partir de l'hypothèse de l'abandon de la différenciabilité de l'espace-temps, en déduit pour l'espace-temps une structure fractale.
Je le connais de façon insuffisante, je m'en excuse. Habitant aux États-Unis, je n'ai pas eu l'occasion de le lire. De plus, ces questions de galaxies, il y a longtemps que je m'en occupe assez peu. Je me suis beaucoup occupé au début. On m'a dit beaucoup de bien, ces travaux, mais je ne les connais pas. L'essentiel dans cette affaire, je dirais encore une fois, a été une question de prudence. Donc chacun son rôle. Peut-être que donc, c'est réaliste que Nottal, qui est beaucoup plus jeune, va au-delà. Pour moi, le thème général était de changer la fractalité, de la changer ce qu'elle était dans l'esprit des astronomes il y a 20 ans, c'est-à-dire une idée totalement absurde qui s'appliquerait peut-être à la rigueur, à toute petite irrégularité locale, mais qui serait sans signification, la transformer en une chose acceptée, normale. Dans ce contexte, on travaille différemment. Il y a en science un aspect dont beaucoup de mes collègues sont peu conscients, car en somme, ils restent dans le domaine pour le rendre, l'approfondir de plus en plus, ce que j'admire beaucoup, mais qui n'est pas ce que j'ai fait. Je pars d'un domaine à un autre, et il faut changer mentalité. Et pour ça, il y a un processus qui est indispensable. Il faut se limiter au plus urgent. Alors je me suis préoccupé, ainsi que d'ailleurs Pietro Nero, de changer mentalité des astronomes, de faire accepter les fractales. Et pendant très longtemps, mes travaux étaient, je crois, dans la position natale par rapport aux astronomes, c'est-à-dire que les astronomes les connaissaient vaguement. Et bon, j'ai une grosse gueule, je voyage beaucoup, et donc on m'entendait, mais en fait, j'étais même pas digne d'être qu'on m'engueule, ce n'est pas la peine. Maintenant, il y a une querelle très vive et très active, et la question est réglée, est posée. Et une fois que ça est réglé, car je pense que ça est réglé, la fractalité va très très loin, et après ça, on va pouvoir faire des hypothèses plus hardies comme celles que vous venez de citer. Pour le moment, en ce qui me concerne, je reste très très centré sur ce combat très très important qui maintenant nous oppose à un noyau dur de cosmologues.
Monsieur,
ici. Bonjour professeur. J'aimerais savoir quelles sont concrètement les améliorations qui peuvent être apportées en termes de pricing ou de gestion des risques financiers par votre dernier modèle fractal.
Bon, il y a deux aspects à ça. Comment dire? Expliquer la réalité et ensuite prévoir l'avenir. Il y a dans le modèle financier usuel qu'on enseigne dans les écoles commerciales, et qui est basé donc sur le monde brownien, qui est basé sur l'idée que jamais rien ne se passe. Et il y a une beauté extrême, des formules très simples qui sont dans les calculettes, on n'a même pas à se fatiguer à comprendre la formule, donc on appuie toc toc toc, on a un prix d'une option. Eh bien, je posais la question à des gens, quand c'est leur argent qui est en jeu, il est évident qu'ils n'ont aucune confiance dans ces formules. Donc, ils leur appliquent toutes sortes de coefficients de sécurité. Il y a des logiciels qu'on vend qui commencent par une formule très très simple que tout le monde comprend et qui est fausse. Mais après ça, ils disent, bon, il faut appliquer un coefficient de sécurité. Alors, le coefficient de sécurité va de 3 à 5 à 10, suivant la prudence des entités. Alors, on peut dire que ce que j'ai déjà fait de façon très complète, c'est montrer que ce coefficient de sécurité était indispensable, que sans ça, des choses épouvantables arriveraient tout le temps. Et maintenant, il faut se rendre compte de l'extraordinaire, écart entre la réalité et, d'une part, et le modèle donc brownien. Et dans le modèle brownien, il y a tout le temps, quand les choses arrivent, les grands événements arrivent, les gens disent c'est brownien, la théorie est bonne, mais les circonstances sont différentes, le monde est différent, c'est un cas très spécial, etc. Et ils appellent ça les événements dits sigma, c'est-à-dire que le prix a changé de façon souvent instantanée de 10 sigma, c'est-à-dire 10 fois la déviation standard du gaussien sous-jacent présumé. Eh bien, la probabilité qu'une déviation de 10 sigma se produise est égale à peu de choses près à l'inverse du nombre d'Avogadro, 10 puissance moins 24. Ça ne devrait jamais arriver. Et ça arrive tout le temps. Vous regardez n'importe quelle chronique, même pas la peine d'attendre que les événements, que la bourse se chauffe, que sais-je, il y a tout le temps des prix qui changent de 10 sigma ou même plus. Le 10 en octobre 87, IBM a soi-disant changé les 23 sigma. Bon, 23 sigma, c'est ridicule. C'est pas... Donc, on fait une sorte de séparation. On a une idée du hasard, qui encore une fois s'appelle bénin, aussi pour des raisons politiques, pour dire que le hasard n'est pas grand-chose, que nous, les choses sont bien régulières, prévisibles, mais il y a bien sûr une petite fluctuation sans importance. Il y a ça, et puis on applique ce coefficient, et puis il y a d'une part la réalité, ensuite ces imitations que j'en fais qui sont très voisines, et donc il faudrait ou bien continuer à avoir ce coefficient de sécurité extraordinaire, c'est-à-dire construire très mal, ou bien regarder ça de face, ce qui est en train d'être fait par beaucoup de gens maintenant, et recalculer les valeurs des options, les probabilités de catastrophe, etc. etc. Et il faudra le faire. Quant à prévoir ce qui va changer, je peux faire des prévisions, c'est un peu long, c'est un peu technique, mais enfin, on sait dans quelle direction ça va. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a certains mécanismes qui existent, qui sont mécanismes humains, qui interviennent quand le système va lâcher. Il y a le phénomène bien connu de long-term capital management, une compagnie américaine dont deux principaux avaient reçu le prix Nobel d'économie pour cette théorie de Black-Scholes, donc de prise d'options. Et ils avaient accumulé des dettes si invraisemblables que s'ils avaient dû liquider, ce qui était presque le cas, le système financier international aurait foiré. Alors, bien sûr, la Banque centrale des États-Unis a forcé des gens à assurer ces compagnies après coup, et les meubles ont été sauvés. Bon, dans la mesure où il y a des gens habiles qui le font, on peut dire pourquoi avoir une théorie, mais est-ce qu'on peut compter sur Jean Abile présent et allant assez vite au feu? Que voulez-vous? C'est un peu la situation des ponts, les gens qui admirent les ponts romains qui tiennent toujours en disant que les Romains construisaient comme des anges. Moi, je dis que les Romains construisaient comme des imbéciles. La preuve, c'est que presque tous les ponts ont disparu et que certains étaient tellement surdimensionné qui reste debout après 2000 ans. Personne n'aurait dû investir à ça. Donc, si on commence à prendre ce coefficient de sécurité sur une théorie mauvaise, comme les Romains qui connaissaient très peu la résistance des matériaux, eh bien, on arrive à certains cas où on a fait trop bien, et puis d'autres ponts qui tombe tout de suite, ou les bateaux, les grands bateaux. Combien de grands bateaux du XVIIe sont maintenant dans le musée parce qu'ils sont sombrés 20 minutes après être partis à Londres et à Stockholm. C'est des miracles de l'art d'ingénieur qu'on peut admirer maintenant dans toute leur intégrité.
Monsieur.
Oui, monsieur le professeur, ma question concerne la diapositive du fractal de Mandelbrot à Cambridge dans un champ de blé. Ma question est la suivante. Quelle est votre interprétation du point de vue du comment et du pourquoi, en deux mots?
Attendez, je n'ai pas compris quelle diapo, laquelle?
Le fractal de Mandelbrot dans le champ de blé de Cambridge.
Ah oui, bah, pardon. Eh bien, l'explication est très simple, disons, ok, la vérité est une, l'erreur est multiple. Si cet objet avait été réellement une image de l'ensemble, on aurait dit, c'est pas possible que des rigolos, en une nuit, réussissent à faire ça. Alors, on aurait dit qu'il y a de nouveaux principes de la physique, les martiens, beaucoup d'hypothèses. Maintenant, si on regarde ça de près, on s'aperçoit que vraiment, ils étaient très pressés. Il y a une autre photo qui est d'en haut, mais elle est moins belle parce qu'on ne voit pas ces grands champs. Alors, on s'aperçoit que l'île, la plus grande île qui est donc au bout de cette épée-là, elle est ronde. D'une part, elle est ronde, tandis qu'en fait, c'est une image du tout. Et d'autre part, elle est beaucoup trop loin. Ils ont mal mesuré. Ils étaient pressés. Alors, des étudiants de Cambridge ont fait l'expérience. Ils ont un peu répété, ils ont fait des outils, et ils ont refait ça en une nuit. Donc, l'explication, c'est que c'est des gens qui s'ennuyaient des cercles, parce que c'est à l'époque les cercles, on les voyait partout, et ils ont voulu montrer que leur habileté augmentait. C'était une chose faite par des gens pour créer de nouvelles. La canicule.
Monsieur. Oui, je voulais avoir votre avis. Bonsoir. Dans la description des phénomènes naturels et notamment de la rugosité dont vous parlez, quels sont les rapports entre l'approche fractale et la théorie du chaos? Est-ce que vous pensez qu'il y a plutôt des points de contact ou des points de contradiction entre les deux approches?
Bon, d'une part, il n'y a aucune contradiction entre les théories. On peut dire, pour simplifier, pour montrer l'idée, que, imaginez, mais demain, il y a une partie qui est, je superpose comme ça, tout ce qui est visuel, tout ce qui est géométrique dans la théorie du chaos, sauf cas extraordinaire, est fractal. Mais la théorie du chaos amène des choses qui ne sont pas visuelles. Développement mathématique innombrable, très profond, qui n'est pas visuel. Et les fractales ont toute la partie aléatoire qui n'a rien à faire avec le chaos. Donc, deuxième question, l'ensemble Mandelbrot fait partie de la théorie du chaos aussi bien que la théorie fractale. C'est une partie commune. Maintenant, pour la question de rugosité, la théorie du chaos est très simple, elle ne dit rien. Elle n'a rien à dire. Ce n'est pas une considération qui entre dans ces affaires. Il est vrai que la mesure de rugosité, qui est donc une dimension, ou plus précisément un exposant de Hölder, a maintenant été adoptée et que l'exposant de Hölder joue un rôle très important en théorie du chaos ailleurs. Les outils, vous savez, ils sont si peu nombreux, les bons outils, quand on en a un, on utilise tant qu'on peut. Donc, mais la théorie du chaos ne dit pas grand-chose. La théorie du chaos est trop ambitieuse. Elle voulait non pas seulement décrire la rugosité, mais l'expliquer. Et c'est un rêve. Et je crois, credo, en l'explication. Je voudrais que tout ça expliqué. On a expliqué beaucoup de choses, pas toutes, comme on a démontré beaucoup de ces conjectures, mais pas toutes. Pour les conjectures, en fait, comme chacun sait, plus la conjecture résiste aux mathématiciens, plus elle devient noble et merveilleuse. Donc le record est bien sûr tenu par Fermat. Et je suis très 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 loin avec une conjecture qui a mis 20 ans et une autre 25 ans. Ça fait 30 ans maintenant. Bon, bref, discutons pas de détails. Je En physique, donc, on essaie d'expliquer. Maintenant, l'universalité des structures de rugosité est une chose qui est trop mal posée comme question pour qu'on puisse donner une seule réponse. Je crois qu'il y a diverses raisons tout à fait séparées qui aboutissent au même résultat. Et c'est compliqué. Donc, en première approximation, il vaut mieux avoir les outils, mesurer et voir dans quel cas quelle est l'explication possible de cette rugosité.
Bien, merci. Merci beaucoup.